Dieu notre Père, nous voulons t'écouter. Nous prions que ton Saint-Esprit règne parmi nous pour illuminer notre intelligence afin de comprendre réellement ce que toi tu as prévu pour chacun de nous. Ta parole est sainte. Ta parole est esprit. Ta parole vivifie. Je prie que tu continues à connecter ton serviteur à toi afin de lui parler ce qu'il va dire maintenant à ces lieux. Que chacun trouve sa part. Le même moment que nous serons en train d'écouter ta parole, celui qui peut avoir des problèmes, que tu trouves la solution à son problème. Celui qui peut être malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Au même moment que nous sommes en train de t'écouter, car ta parole, c'est l'eau vive qui va vivifier tout ce qui a déjà bloqué dans la vie de quelqu'un. Au même moment, nous écoutons ta parole. Au même moment, Seigneur, tu vivifies ce qui était déjà mort dans la vie de chacun. Au même moment, nous écoutons ta parole. Au même moment, tu débloques l'accueil des blocages. Seigneur, nous avons besoin de toi. Rappuissant ton serviteur, que ces hommes ne les regardent pas, mais qu'ils te regardent toi qui parles à ton peuple. Et que lui ne parle pas ce qu'il pense, mais que Seigneur Saint-Esprit te donne toujours la parole que tu as préparée avec lui, une parole qui va édifier l'Église. Et nous savons que Seigneur, nombreux vont revenir à toi. Ils vont encore se confier à toi parce que la Bible dit, si nous allons nous confier à toi de tout notre cœur, alors toi tu vas aplanir nos sentiers. Je prie que Seigneur chacun se confie à toi quand il écoute cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Bonsoir à tous. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, tu as bien fait d'être là, le Seigneur a ta part ce soir. Alléluia. Nous allons lire deux passages de la Bible. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament, Josué chapitre 24. Le second, dans le Nouveau Testament, à Luc chapitre 3. Josué chapitre 24, nous allons lire les 14e verset au 27e avant d'aller dans le Nouveau Testament. Josué chapitre 24, nous lisons à partir du 14e verset. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis dans la version Semer. Même maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et rendez culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel dieu vous voulez rendre culte, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Car c'est l'Éternel notre Dieu qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres, d'Égypte, le pays où nous étions esclaves. Il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons transversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel. En d'autres versions, on dit nous voulons servir l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez pour adorer les dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons servir. Josué reprit, vous êtes vous-même témoin contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouve encore au milieu de vous, et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit, « Nous adorerons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons. » Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Josué co-signa ces choses par écrit dans les livres de la loi de Dieu. Puis, il prit une grande pierre et la dressa là, sous les chênes qui se trouvaient dans la sainte du sanctuaire de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, « Cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a attendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous pour que vous ne reniez pas votre Dieu. » Luc chapitre 3, nous allons lire les versets 4 à 6, et puis 10, 12 et 14. Luc chapitre 3, nous lisons le quatrième verset au sixième, et puis nous allons prendre le verset 10, 12 et 14. La parole de Dieu dit ceci, au verset 4. « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait écrit dans son livre. On attend la voix de quelqu'un qui crie dans les déserts. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront les saluts de Dieu. » Le verset 10. Les foules lui demandèrent alors, « Que devons-nous faire ?» Verset 12. Il y avait des collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Ils demandèrent à Jean, « Maître, que devons-nous faire ?» 14. Des soldats le questionnèrent aussi, « Et nous, que devons-nous faire ?» Alléluia. Si on pouvait continuer, on allait peut-être dire les étudiants, venez lui poser la question, « Et nous, que devons-nous faire ?» Si on était peut-être à Goma, les commerçants pouvaient venir voir Jean et dire, « Et nous, que devons-nous faire ?» Si on était en République démocratique du Congo, toutes les couches allaient venir auprès de Jean et poser la question, « Et nous aussi, que devons-nous faire ?» Alléluia. C'est ce que nous voulons décortiquer cet après-midi. Dans cette opération Jean le Baptiste, hier, on nous a parlé du retour de Jésus. Jésus vient bientôt. Et si Jésus vient bientôt, la question que chacun de nous devait se poser ce soir, « Et moi, que dois-je faire ? Et nous, que devons-nous faire ?» Bien-aimés, ça c'est une question très très importante, parce qu'elle va nous amener à une réponse très très importante que Josué a donnée au peuple lorsque le peuple a pris l'engagement de se détourner des autres dieux et de servir le seul Dieu, le Dieu d'Israël. Il a conclu une alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir le Seigneur voudrait que tu puisses conclure avec lui une alliance à partir de sa parole, de décider à une vie d'intégrité, une vie qui te sépare du péché pour préparer le retour du Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand on pose cette question, que dois-je faire? Pareille question ne peut être posée que par des personnes qui ont été touchées. Et quand quelqu'un arrive à se poser la question, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est une question qui montre qu'il a été touché, qu'il a été brisé dans son cœur. Vous rappelez-vous le jour où les serviteurs de Dieu avaient été emprisonnés et Paul et Silas qui ont chanté, le Seigneur est intervenu et les portes se sont ouvertes. Les gardiens qui voulaient se tuer, Paul a dit, ne te fais pas du mal car nous sommes là tous. La question que cette personne s'est posée dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ça veut dire qu'il a été brisé dans son cœur. Et il a élevé sa voix, « Que dois-je faire pour être sauvé ?» Et Paul lui a dit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Alléluia. Quand quelqu'un arrive à se poser cette question, Il y a toujours la réponse de Dieu. Et cette réponse que Dieu te donne, c'est une réponse satisfaisante. Mais je voudrais vous partager 5 problèmes de l'Église aujourd'hui. 5 problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui et qui fait que nous n'arrivons pas à bénéficier de la réponse de Dieu qu'il accorde à quiconque poserait cette question. Et moi, que dois-je faire? Le premier problème, c'est que l'Église aujourd'hui a des gens qui croient tout connaître et se considèrent comme des vases pleins. Aujourd'hui, nous avons l'Église qui croit avoir tout connu du salut, de Jésus, de Dieu. Et tout le monde pense qu'il est plein, il n'a plus besoin de quelque chose. Quant aux enseignements, les gens n'attendent que des choses nouvelles parce qu'ils croient que en matière du salut, en matière de la croissance spirituelle, ils connaissent tout. Et surtout, quand il faut qu'il y ait un enseignant qu'ils connaissent, vous trouvez que le cœur des gens ne sont pas intéressés. Il faudrait qu'on dise, il y aura un prédicateur qui vient des États-Unis. Alors, tout ce temple sera rempli. Ça, c'est un problème, bien-aimé, que l'Église d'aujourd'hui traverse. Écoute maintenant ce que Dieu dit à l'Église d'aujourd'hui. En Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 3, la parole de Dieu dit ceci. À l'Église d'aujourd'hui, Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 3, il est écrit ce qui suit. À l'ange de l'Église de Sardes, écrit, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Deviens vigilant, affermis ce qui reste et qui était sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et attendu la parole. Obéis et change, car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viens te reprendre. » Alléluia. Les gens croient qu'ils connaissent tout. Les gens croient qu'ils sont pleins. Pourtant, il y a une réponse que l'Esprit de Dieu adresse à l'Église qui se croit tout connaître. Il dit, « Sois bien vigilant. Sois bien vigilant, car je connais ta conduite. » L'Église semble tout connaître. Pourtant, quand vous allez dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle de cette Église d'aujourd'hui, elle est spirituellement en dessous de l'échelle. Pourtant, ce sont des gens qui pensent qu'ils connaissent tout. L'Esprit dit, je connais ta conduite, je connais ce que tu fais au lieu de service, je connais comment tu vis dans ton quartier, je connais comment tu te comportes dans ta famille. Tu dois changer. Le Seigneur a un message pour toi, bien-aimé. Rappelle-toi comment tu as reçu et attendu la parole. Obéis et change. Il y a des gens qui ont commencé leur vie chrétienne avec beaucoup d'empressement, avec beaucoup de courage. Mais à un certain moment, le fait qu'ils croient qu'ils sont déjà pleins, ils ne lisent plus la Bible. Beaucoup de gens ont commencé leur vie chrétienne avec beaucoup d'empressement. Ils étaient empressés à prier. Quand il faut prier, ils étaient vraiment dans l'empressement. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font des prières comme si ce sont des prières qui vont couvrir toute la semaine. Il prie le lundi et va prier le dimanche. Bien-aimé, le Seigneur n'a pas demandé à ses disciples de prier de cette façon-là. Quand il s'agit même de lire la parole de Dieu, le Seigneur n'a pas demandé que la parole que vous allez consommer le dimanche, c'est celle-là qui va vous nourrir toute la semaine. Non, ce n'est pas pour rien que quand Dieu a rencontré le peuple d'Israël dans le désert, il a amené la manne. Et cette manne-là, c'était pour chaque jour. Et il y avait une quantité suffisante pour chaque jour. Pour dire que la parole de Dieu, vous avez besoin d'une quantité pour chaque jour. Alléluia. Vous ne pouvez pas prendre la manne pour aujourd'hui, pour couvrir toute la semaine. Jamais. La parole de Dieu dit, si vous prenez la manne, prenez la quantité qui vous suffit pour ce jour-là. Parce que si vous conservez pour le lendemain, la manne était gâtée. vous ne pourriez pas récupérer le surplus. Parce que Dieu faisait tout pour que vous ayez la manne pour ce jour, la manne pour lundi, la manne pour mardi, la manne pour mercredi. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui vous lisent la parole de Dieu ou qui écoutent tout simplement les dimanches et tout le reste de la semaine, vous ne le verrez jamais en train d'ouvrir sa Bible. Vous ne le verrez jamais en train de prier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, tu dois te rappeler comment tu as reçu et attendu la parole. Tu dois continuer à obéir et à changer ses comportements. Et moi, que dois-je faire? Je dois changer mon comportement. Et moi, que dois-je faire? Je dois revenir sur mon amour initial pour l'Éternel. Alléluia. Lisons le verset 15, toujours en Apocalypse, chapitre 3. La parole de Dieu dit ceci. Je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Cette église qui pense qu'elle connaît tout aujourd'hui, comme si leur vase est déjà plein, c'est cette église que le Seigneur est en train de reprocher en disant, je connais ta conduite, tu n'es ni chaud ni froid. C'est à cette église-là que le Seigneur s'adresse. Et il ajoute en disant ceci, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche. J'ai amassé des trésors. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des reproches que l'Éternel adresse à l'Église aujourd'hui. Qui se croit riche, qui se croit qu'il n'a plus besoin d'ajouter à sa foi quelque chose. C'est cette Église que le Seigneur dit, attention, tu te crois riche, mais je constate que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te conseille, achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Alléluia. C'est l'exhortation que le Seigneur adresse à l'Église aujourd'hui. Je connais ta conduite. Tu te fais passer pour vivant alors que tu es mort spirituellement. Dans l'église d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont entrés dans l'église. Nous les considérons comme vivants alors qu'ils sont morts. Dans l'église d'aujourd'hui, dit, tu n'es ni froid ni bouillant. Ça veut dire, dans l'église d'aujourd'hui, il y a des gens qui mènent une double vie. Un pied à l'église, un pied à l'extérieur. Mais ils croient qu'ils connaissent tout et qu'ils n'ont plus besoin de rien. Dans l'église, la parole de Dieu dit, tu te fais passer pour riche alors que tu es misérable. Ça, c'est l'image de l'église aujourd'hui. Le deuxième problème, bien-aimé, dans l'église d'aujourd'hui, nous avons des gens qui cherchent Jésus pour les miracles qu'il peut faire pour eux et non pour les chercher afin de les connaître et grandir dans l'expérience personnelle avec lui. C'est le deuxième problème de l'église aujourd'hui. Les gens cherchent Jésus parce qu'ils ont besoin des miracles que Jésus peut opérer dans leur vie. Mais ils ne les cherchent pas parce qu'ils veulent les connaître. Ils ne les cherchent pas parce qu'ils veulent faire une expérience personnelle avec lui. C'est ce qui s'est fait constater à Jean chapitre 6, le verset 23 à 30. Les gens sont venus chercher Jésus parce que tout simplement, ils ont bénéficié de la multiplication du pain. Et ils le cherchaient pour recevoir d'autres miracles. Mais voici ce que Jésus leur a dit. Jean chapitre 6, verset 23. La parole de Dieu dit ceci. Au verset 23, « Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie, après que le Seigneur y remercié Dieu. » 24. « Quand les gens virent que Jésus n'était pas là, et ses disciples non plus, ils montèrent dans des bateaux, pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus lui répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » C'est l'image de l'Église aujourd'hui. Les gens courent derrière les miracles que Dieu peut faire pour eux, mais ils ne cherchent pas Jésus pour les connaître davantage et faire une expérience personnelle avec lui. Jésus leur dit, « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui a accordé le pouvoir à les marquer de son sceau. » Alléluia. Jésus a une parole de vie pour vous. Ne pensez pas que ce que vous connaissez suffit pour vous faire vivre au quotidien. Mais il y a une parole de vie pour vous chaque jour. C'est pourquoi Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les gens croient qu'ils sont en train de vivre, mais sans la parole de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas la vraie vie. Nous devons vivre de ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce qui va nous donner la vraie vie. Parce que c'est ce qui sort de la bouche de Dieu qui va nous faire marcher sur notre destinée. Et beaucoup de gens sont en train de marcher sur d'autres chemins, en dehors de leur destinée, parce qu'ils ne marchent pas selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. J'avais dit encore ici une fois que nous pouvons prier, mais il y a des réponses que Dieu donne par sa parole. Nous attendons les actions, alors que Dieu nous a répondu dans sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de m'exercer à écouter Dieu. Et chaque fois que je prie, je fais tout pour que je ne quitte pas mon moment de prière sans avoir reçu une seule parole que Dieu me chuchote. Ne fût-ce que écouter Dieu me dire, « Je suis avec toi. » Ça me suffit. Ne fût-ce que écouter Dieu me dire, « Je vais te conduire. » Ça me suffit. Alléluia. Les réponses de Dieu sont dans sa parole. Nous ne devons pas chercher Dieu seulement nous, parce que nous voulons avoir des miracles, mais nous devons le chercher pour le connaître et le connaître davantage. Que déjà aujourd'hui, cours derrière des hommes parce qu'on a dit, telle part, il y a quelqu'un qui fait des miracles, il y a quelqu'un qui fait ceci. Au lieu de chercher toi-même, c'est Dieu-là, l'auteur de ces miracles, pour que toi aussi, tu puisses expérimenter ton miracle dans sa présence. Tu cours derrière les hommes. Comme s'il y a des personnes spéciales, alors que celui qui est spécial, c'est celui qui a la rencontre personnelle avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des chrétiens qui sont des chrétiens trop dépendants des hommes. Mais on n'a pas de chrétiens qui sont trop dépendants de Dieu. Amen. Nous devons être des chrétiens matures. Qui devons nous dire, je suis passé par la même croix que tel. Et si le Seigneur a été à mesure de faire ceci avec tel, il est aussi capable de le faire avec moi. Et ceci va me pousser à dire, je dois chercher la face de l'Éternel pour que je sois aussi une source de bénédiction aux autres. Alléluia. Ça m'écœure, moi, lorsque une grande paroisse comme la nôtre ici, avec tout le potentiel que nous avons, mais nous ne faisons qu'appeler les prédicateurs qui viennent d'ailleurs. Et je me pose la question, quand est-ce qu'on nous appellera aussi ailleurs? Quand est-ce qu'on nous appellera ailleurs? Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est parce que nous ne cherchons pas la face de l'Éternel, nous devons nous amender et nous dire, les autres là, ces choses que nous cherchons chez eux, où est-ce qu'ils trouvent ça? Allons aussi au pied du Seigneur pour qu'il nous donne ce que nous cherchons chez les autres. Et quand il va nous remplir, notre vase va être plein et il va déborder vers les autres. Et les autres nous appelleront chez eux. Alléluia. Nous ne sommes pas une église qui sera toujours dépendante des autres. Une église qui va toujours courir derrière les autres. Mais nous pouvons aussi attirer les autres vers nous. Alléluia. Nous pouvons attirer les autres vers nous. Ça dépend de la connexion que nous aurons avec Dieu. Vous savez que Dieu travaille comme un aimant. Lorsque tu te connectes avec Dieu, tu deviens comme un aimant et tu attires les autres vers toi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand bien même il a su que ce n'est pas facile de boire la coupe, mais il savait que le secret se trouve à la croix. Et il sait que il faut qu'il arrive jusqu'à la croix, malgré les souffrances, Mais il a supporté la souffrance parce qu'il sait que quand il sera sur la croix, il va attirer beaucoup déjà vers lui. Alléluia. Et il a été accroché à cette vision-là du sacrifice suprême parce qu'il sait que quand il va atteindre l'objectif, il va attirer beaucoup de gens vers lui. Bien-aimé, toi qui es venu ce soir, le Seigneur voudrait que tu puisses aussi t'accrocher à lui pour suivre l'objectif, de le chercher pour l'atteindre. Quand tu vas l'atteindre, quand tu seras connecté à lui, tu vas attirer aussi les gens vers toi. Alléluia. Un autre problème de l'Église aujourd'hui, nous avons des gens qui sont restés attachés à la forme et non au fond. Les gens veulent le show, le sensationnel, le beau, mais ils ne réfléchissent pas sur le fond. Les gens veulent avoir ce qu'ils veulent, ce qui les plaît extérieurement, mais au fond, c'est vide. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9, la parole de Dieu dit ceci. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 9. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, d'autres versions disent, dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Ça, ce sont des caractères de l'Église qui se manifestent aujourd'hui. Ce qui est sacré est banalisé. Sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien, emporté par leur passion et afflé d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Je reprends le verset 5. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Les gens sont attachés aux pratiques extérieures de la religion, le paraître, mais au fond, il n'y a rien. Ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui peut leur donner la force au fond. Bien-aimés, Dieu voudrait que, tel que nous paraissons devant les hommes, que cela soit ainsi, en faux de nous-mêmes. Amen. Quatrième problème de l'Église aujourd'hui, les gens cherchent à écouter ce qu'ils veulent, ce qui leur fait plaisir, plutôt qu'à la parole de Dieu qui est authentique. Si vous allez au chapitre 4 de 2 Timothée, cela est bien expliqué au verset 1 à 4. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. 3. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Au gré de leur progrès, de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Vous comprenez cette version? Les gens voudront écouter des paroles qui leur caressent agréablement les oreilles, mais ne voudront pas rester attachés à la parole authentique. J'ai dit ici dimanche passé que aujourd'hui c'est très rare qu'on parle de la repentance. Aujourd'hui c'est très rare qu'on parle de l'enlèvement de l'Église. Heureusement, le messager hier est revenu sur ça. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer à son retour. Mais les gens aujourd'hui, ils sont un peu distraits. Au lieu de se préparer au retour du Seigneur, on veut écouter des paroles flatteuses, telles que le dit ce passage ici. Ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ne voudront rien savoir de ce qui a fait la force. Amen. Cinquième problème, c'est que le degré d'intégrité de l'Église aujourd'hui est bas. L'intégrité. Oui. Aujourd'hui, on cherche des méga-churches avec 2000, 3000, 10000 personnes. Mais quand vous allez au fond de la vie d'intégrité, vous allez constater qu'ils sont moins nombreux, ceux qui vivent l'intégrité. Que ce soit à l'école, que ce soit au boulot, les gens peuvent venir ici, louer, chanter, adorer. Mais à l'école, il suffit d'apporter une interrogation, un examen. Vous allez comprendre que l'intégrité est encore très bas. Oui, et les gens se donnent des raisons. Que la tricherie, ah, ça c'est pas, n'est-ce pas les étudiants et les élèves? La tricherie, c'est très difficile de convaincre aujourd'hui un étudiant et un élève que tricher c'est un péché. Les gens ont beaucoup de défenses pour ça. Et ils sont dans l'église. Ils ont déjà fabriqué d'autres versets qui ne sont pas dans ma Bible. Jira ni 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 ni. Nindouk. Dieu créa. Ouais, ce sont des Bibles qu'ils ont créées avec des versets, mais ils ne sont pas dans cette Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intégrité. L'intégrité. Jésus revient bientôt. L'Église d'aujourd'hui a perdu cette qualité d'intégrité. Allez dans les bureaux, vous allez vous rendre compte que les gens qui s'appellent des chrétiens, ce sont des grands détourneurs. Grands détourneurs. C'est très, très aberrant de voir que même dans les structures de l'Église, il y a des détournements. Ce n'est pas seulement à l'État. Maintenant, le défi que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Église n'a plus les modèles à donner au monde. L'Église n'a plus de modèles à donner au monde. Qu'est-ce que l'Église peut enseigner aux politiciens aujourd'hui? Quand il n'y a pas l'intégrité parmi nous qui venons à l'Église, qu'est-ce que nous allons enseigner aux politiciens? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons demander à ce que le Seigneur nous aide afin de revenir à l'intégrité. Laisse-moi te dire trois choses que tu dois savoir avant que nous puissions conclure ce message. Et moi, que dois-je faire? Première chose, tu dois savoir que Dieu préfère poser ses bénédictions sur une bonne fondation, car une bénédiction posée sur le sable peut ruiner le bénéficiaire. Alléluia. Dieu a des bénédictions, mais il préfère aller poser ses bénédictions là où il y a une bonne fondation. Et la bonne fondation, c'est celle qui est fondée sur la parole de Dieu. La bonne fondation, c'est celle qui est fondée sur la repentance, la vraie repentance. La bonne fondation, c'est celle qui est fondée sur l'intégrité. La bonne fondation, c'est celle qui est fondée sur la crainte de l'Éternel. C'est là que le Seigneur veut déposer sa bénédiction. Mais comme aujourd'hui, tout le monde veut être béni, et Dieu, dans sa générosité, parfois il donne des bénédictions. Et si ces bénédictions tombent sur le sable, il y a beaucoup de gens qui ont été bouleversés et leur vie a été ruinée. Ils ont demandé, Seigneur, nous sommes dans le chômage, donne-nous du boulot, donne-nous du boulot, le Seigneur donne le boulot. Bon, vous menisumbo si vous akutosha, mais tu ne veux pas travailler sur ta vie chrétienne, sur ta spiritualité. Poké à case. Il a du boulot et quelques temps après, c'est fini. On ne le voit plus à l'église. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu le fait par sa volonté permissive. Ce n'était pas sa volonté parfaite. Parce que Dieu, il voudrait déposer sa bénédiction là où il y a quelque chose de solide. Quand le vent va passer, ça ne va pas bousculer la personne. La fondation va supporter cette bénédiction-là. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui n'ont pas de fondation. Ils sont comme les sables. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Et le Seigneur dit, travaille sur ta spiritualité. Non, Seigneur, bénis-moi. Je n'ai pas le temps de prier. Bénis-moi, j'ai besoin de la bénédiction. Mais dans sa volonté permissive, il peut te donner. Mais ça ne va pas durer parce que c'est posé sur le sable. Mais tu dois savoir que quand tu travailles sur ta spiritualité, tu es en train de poser des bases pour les bénédictions que le Seigneur te réserve. Alléluia. Deuxième chose, les bénédictions de Dieu se trouvent dans les secrets de la profondeur. Les bénédictions de Dieu se trouvent dans les secrets de la profondeur. Vous savez, il y a des leçons que Dieu nous donne à partir même de la nature elle-même. Voyez, dans la création de Dieu, il a fait en sorte que vous pouvez facilement récolter des avocatiers sur un arbre, il suffit de monter ou de prendre, vous les faites tomber. Dans la création de Dieu, il a fait en sorte que vous pouvez planter des rambas et vous aurez des patates douces juste sur le sol. Mais écoutez, ce n'est pas de cette façon que Dieu a placé l'or dans le sol, les diamants et les autres pierre précieuse. Le secret, Dieu le sait. Ce qui est pressé, il doit le placer à profondeur. Alléluia. Les bénédictions de Dieu se trouvent dans le secret de la profondeur. C'est pourquoi si vous voulez avoir les minéraux les plus précieux, vous devez vous donner le courage de creuser à profondeur pour aller les atteindre là où Dieu les a placés. Ne cherchez pas les bénédictions de Dieu de manière superficielle. Creusez, cherchez la face de l'Éternel parce que c'est là où se trouve le secret de ces bénédictions. Ne sois pas superficiel dans ta vie chrétienne, bien-aimée dans le Seigneur. Sinon, tu ne récolteras que des patates douces, tu ne récolteras que des avocats qui vont périr après quelques instants. Mais si tu veux récolter les minéraux qui vont durer pendant longtemps et qui vont bâtir ta vie et ton éternité, tu dois creuser en profondeur. Tu dois marcher dans la vie chrétienne en profondeur, ne pas rester superficiel. Ne sois pas paresseux dans la recherche de la face de l'Éternel. Tu dois te donner du courage, bien-aimé. D'ailleurs, la Bible dit, depuis la venue des gens jusqu'aujourd'hui, le royaume de Dieu est prêché. Et ce sont les vaillants qui s'en accaparent. Ce sont les courageux qui s'en accaparent. Quand tu cherches Dieu, ne regarde pas les autres. Dieu répondra à ta soif. Alléluia. Dieu ne répond qu'à la soif. Si tu n'as pas soif de Dieu, n'attends pas que Dieu fasse de grandes choses dans ta vie. Tu seras en train de contempler les autres. Tu dis, mais pourtant les autres sont entrés. Pourquoi pas moi? Dieu répond à la soif. C'est pourquoi il a crié à Jérusalem. Que celui qui a soif vienne. Moi, j'ai de l'eau que je vais donner sans payer. Il suffit d'avoir la soif de Dieu et Dieu comblera cette soif-là. Amen. Et peut-être toi, tu es déjà dans le processus de rechercher Dieu. Au moins, tu n'es pas au niveau zéro. Tu as déjà commencé. Je vais te conseiller, bien-aimé, toi qui as déjà commencé, ne t'arrête pas. Alléluia, ne t'arrête pas, fonce, cherche le Seigneur. Il a dit à Jérémie, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ne t'arrête pas, ne résiste pas, endure, quand même les choses seront difficiles pour toi. Ne te compare à personne, jamais. Tu as un appel spécial et Dieu fera des choses spéciales pour toi. Alléluia. Ne te compare pas à personne. Il y a des gens qui se disent, bon, tu lui comme Allah kanao le pourtaye, alishakou en voiture, mi si apat. Sa voix n'est pas la tienne. Amen. Et tu dois savoir une chose. Dans la marche avec Dieu, la grandeur de ce que tu en dis détermine aussi la grandeur de ta destinée. Il y a des gens que le Seigneur fera traîner. Mais l'objectif de l'Éternel, ce n'est pas de les faire rater leur bénédiction, mais il les fait traîner pour les préparer à quelque chose de grand qui arrivera. Alors ne te compare pas à personne, parce que ton timing avec Dieu ne doit pas être égal à celui de l'autre. Tu as ton timing avec Dieu, et le Seigneur sait ce qu'il te réserve. Et comme nous avons ici le principe qui dit que Dieu, lui, il réserve sa bénédiction pour celui qui prépare d'abord la fondation. Il y a déjà ici qui croient qu'ils ont traîné, que leur bénédiction traîne. Mais le secret de Dieu, c'est quoi? Il est en train de poser la fondation de là où il va déposer ta bénédiction. Au lieu de déposer sa bénédiction sur le sable, où la bénédiction va aller s'enfoncer, le Seigneur prépare d'abord la fondation. Et le moment vient, tu verras. Et tu seras le témoin. Et le monde verra que celui qui marche avec Dieu ne sera jamais déçu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que ton temps est arrivé. Tu es en train de jouir de l'accomplissement. Je vais te conseiller aussi de ne pas t'enorgueillir. Ça peut arriver que c'est ta saison où le Seigneur est en train de faire de grandes choses dans ta vie. Ne t'enorgueillis pas. Accepte cela comme la grâce qui vient de Dieu. Ne t'endors pas. Adisabo, Nimefika, tu as demandé que le Seigneur te bénisse, il t'a donné du boulot. Tu as demandé que le Seigneur te bénisse, il t'a donné peut-être un moyen de déplacement. Tu as demandé que le Seigneur te bénisse, il t'a donné un fiancé, il t'a donné un mariage. Il ne faut pas dormir et dire Nimefika. Non, ne t'endors pas, bien-aimé. Tu es dans ta saison, dans ton accomplissement. Ne t'endors pas. Veille plutôt pour que tu demeures longtemps dans cette bénédiction. Vous savez, il y a une différence entre être à un stade quelconque, à un niveau quelconque, et demeurer à ce niveau-là. Il y a ceux qui ont atteint un certain niveau, mais qui n'ont pas demeuré. Si tu veux demeurer dans ta saison, dans ta bénédiction, bien-aimé, ne t'endors pas. Ne considère pas que je suis déjà arrivé et donc je n'ai plus rien à faire. Non, tu dois toujours continuer à rechercher la face de l'Éternel pour que le Seigneur te maintienne dans cette position-là. Alléluia. Et pendant que tu es à ce niveau-là, tu ne dois pas oublier que le Seigneur te bénit pour que tu bénisses les autres. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont été bénis et ils croient qu'ils sont bénis pour eux-mêmes. Non, le Seigneur bénit pour que quand ta coupe va déborder, il faut qu'elle déborde vers les autres et que les autres en profitent. Il ne faut pas garder ta bénédiction pour toi-même. Mais demande à Dieu, c'est que Seigneur, aide-moi afin que je sois une source de bénédiction pour les autres. Il ne faut pas prier Dieu, Seigneur, me bénis, bénis-moi. Moi, je prie, Seigneur, quand tu me bénis, fais à ce que je sois une source de bénédiction pour les autres. C'est mieux d'être une source de bénédiction pour les autres que de prier seulement la bénédiction pour soi-même. Troisième chose et dernière chose, nous devons savoir que l'intégrité est payante. Malgré le prix que tu vas payer, le Seigneur va te payer pour l'intégrité. Amen. Lisons Psaume chapitre 84, verset 12. Psaume 84, le verset 12 nous dit ceci. La parole de Dieu nous dit, je peux commencer au verset 11, car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Plutôt, rester sur le seuil de la maison de mon Dieu et de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Alléluia. L'intégrité paye, bien-aimé. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il sera un soleil pour toi. Il sera un bouclier pour toi. Il va t'accorder sa bienveillance et sa gloire lorsque tu vas marcher dans l'intégrité. Proverbes chapitre 2, verset 7. La parole continue à nous encourager à rechercher l'intégrité. Proverbes chapitre 2. Le verset 7. Il réserve le salut aux hommes droits. Comme un bouclier, il protège ceux qui mènent une vie irréprochable. Le Seigneur sera ton bouclier. Le Seigneur va te protéger quand tu vas chercher à mener une vie d'intégrité. Chapitre 10, le verset 9. Nous sommes toujours dans les Proverbes. Chapitre 10, verset 9. Celui qui vit dans l'intégrité marche en sécurité. Celui qui suit des voies tortueuses sera vite démasqué. Quand tu marches dans l'intégrité, le Seigneur sera ta sécurité. Un jour, on va t'accuser faussement au lieu du travail. Mais le Seigneur qui sait ton intégrité, il fera ta défense, il te défendra. On peut même te chasser du boulot de manière injuste parce que tu n'as personne pour te défendre. Mais le Seigneur qui est témoin de ton intégrité, il fera ta défense. On a connu beaucoup de gens qui ont été chassés comme ça pour des raisons de tribalisme ou tout simplement de calomnie. Mais le fait qu'ils ont été intègres, quand on les chasse, le Seigneur les ramasse et il les met à un niveau supérieur au niveau où ils étaient. Parce que quand le Seigneur fait ta défense, il le fait bien pour faire comprendre à tes ennemis que celui-ci m'appartient. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, pour cela, qui vont marcher dans l'intégrité. Apocalypse chapitre 3, verset 7 à 13. Le Seigneur promet que même si les portes seront fermées, il y a une porte qu'il va ouvrir pour toi et personne ne peut la fermer. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, lisons les versets 7 à 13. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit, voici ce que dit le Saint, véritable. Celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne les membres de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui ne les sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé mes commandements et persévéré que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'ère de l'épreuve qui va venir sur le monde entier. Il y a une porte que le Seigneur réserve à ceux-là qui marchent dans l'intégrité. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, avec le peuple d'Israël, ils ont pris alliance en disant, le Seigneur qui nous a fait traverser, nous ne voulons pas l'abandonner. Nous ne voulons pas adorer les autres dieux. Nous voulons marcher avec lui. Des chemins qui sont tortueux, la corruption et autres, nous voulons que le Seigneur nous aide à être fidèles et intègres. Parce que l'intégrité paye. Tout ce que nous sommes en train d'endurer parce que nous cherchons la face de l'Éternel, nous ne voulons pas abandonner. Nous allons continuer à chercher parce que nous sommes en train de poser une fondation de la bénédiction que le Seigneur va déposer sur nous. Tiens, mon frère, tiens, ma sœur, car le Seigneur ne ment jamais. Il est fidèle et il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Lèvons-nous pour la prière. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je repose, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Bien-aimé, tu vas prier pour toi-même. Le Seigneur dit qu'il te connaît. Il connaît l'attitude de ton cœur. Peut-être que tu as commencé avec beaucoup d'empressement, mais ta soif a diminué. Demande à Dieu de renouveler ta soif. Dis à Dieu, renouvelle encore ma soif pour toi. Renouvelle encore ma soif pour toi. Je suis arrivé au niveau où je ne te crains plus. La parole de Dieu ne m'intéresse pas. Quand il faut écouter la parole, je suis chantre et je peux sortir au moment de la prédication. Seigneur, je voudrais que cela s'arrête. Je voudrais être scotché à toi pour recevoir la manne de chaque jour. Prie que le Seigneur t'aide, parce que l'intégrité paie. Celui qui cherche l'Éternel, il le trouvera. Et le Seigneur le bénira. Le Seigneur sera sa sécurité. Le Seigneur le défendra. Merci Seigneur de nous avoir parlé cet après-midi. Je prie pour ton Église que tu as décrit. Nous voulons Seigneur que tu fasses de nous la différence. Ta parole dit, tu te réserves toujours une minorité de gens, quand bien même les autres vont se corrompre. Je prie, Seigneur, que ceux-ci soient parmi la minorité. La minorité, Seigneur, qui va te craindre. La minorité de ceux qui vont t'aimer. La minorité de ceux-là qui seront attachés à ta parole. La minorité de ceux-là qui vont rechercher à te connaître et à faire l'expérience personnelle avec toi, ô Dieu. Et tu as dit que tu te révéleras à eux et tu feras de grandes choses. Tu vas leur manifester des choses cachées que personne ne connaît pas. Père, nous voulons que tu te manifestes à nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ce soit toujours les autres. Nous voulons aussi expérimenter, Seigneur, ce que ta main peut faire dans la vie de ceux qui croient à toi. Nous voulons, Seigneur, expérimenter les miracles dans notre vie. Nous voulons expérimenter, Seigneur, le renouveau spirituel dans notre vie. Seigneur, nous t'avons demandé le réveil dans cette église. Tu as dit que tu nous as donné, mais nous devons nous mettre pour gérer ce réveil. Nous devons nous tenir chacun à sa place
afin que nous puissions être en mesure de voir ce que les autres sont en train de voir. Que tu vas faire parmi nous, ô Père, parce que ton esprit est là. Il est là pour donner à chacun selon qu'il le veut. Et ce que tu as fait avec la première église, tu es capable de le faire avec cette église aujourd'hui. Si moi et ma sœur, mon frère, nous nous mettons à rechercher ta face et à rechercher l'intégrité, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide ton église. Aide ton église. Prépare-nous, Seigneur, à être prêts à te rencontrer. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.